Partage, une émission contre toutes les cages. Carapatage, c'est une émission contre les prisons, la répression et le contrôle. À travers l'actualité de l'enfermement, mais aussi son histoire.
En racontant les luttes à l'intérieur et à l'extérieur, en échangeant ce qu'on a vu, lu et entendu. Carapatage, c'est tous les premiers et troisièmes mercredis du mois, de 20h30 à 22h,
sur Radio Libertaire 89.4 FM. Carapatage contre toutes les cages. On est de retour dans Carapatage, l'émission contre l'enfermement, la prison, le contrôle et ce soir le fichage. Ce soir, on va parler du fichage des personnes psychiatrisées, en particulier du fichier OpsyWeb, qui est un fichier qui recense toutes les hospitalisations sous contrainte. Les hospitalisations sous contrainte sur lesquelles on avait déjà fait une émission vers laquelle on vous renvoie, on vous mettra le lien. Voilà, donc on avait déjà parlé un peu de psychiatrie, d'hospitalisation sans consentement et on vous renvoie aussi à nos précédentes émissions qu'on a faites. Déjà, il y a eu les chroniques papier mâché sur les papiers, sur le fichage et aussi sur le fichage ADN et les empreintes. Voilà, donc c'est pas la première fois qu'on parle du fichage dans cette émission, mais ce soir on en parle plus spécifiquement du coup de OpsyWeb. Et Alix, tu vas nous expliquer quand ça a été créé et comment ça fonctionne.
Ouais, enfin plus précisément je vais parler des ancêtres d'OpsyWeb. Je te laisserai parler d'OpsyWeb en tant que tel après. Mais du coup, quand est-ce que ça commence toute cette histoire-là? C'est dès les années 80. Alors, dans les années 80, c'est juste un établissement de santé dans l'Essonne, je crois, qui crée le fichier Gypsy, ça s'appelle. Et du coup, l'idée de ce fichier, c'est de regrouper un peu les infos qui concernent les personnes, les patients au sein de l'établissement, pour clarifier son fonctionnement, ils disent. Donc, c'est surtout distinguer les personnes qui sont en soins libres, donc qui sont hospitalisées de leur plein gré, et celles qui sont hospitalisées sans consentement. Et du coup, c'est le premier fichier, j'allais dire automatisé, je ne sais pas si c'est ça le mot, mais fichier numérique, quoi, pour donc dans un but de gestion et de gérer les procédures administratives, le respect des échéances, parce que tous ces fichiers, ils vont aussi se développer en disant que l'hospitalisation sous contrainte, notamment, il y a des échéances à respecter, des règles à respecter, où les médecins doivent réévaluer régulièrement l'état de santé de la personne, parce que c'est eux qui disent si elle doit être hospitalisée sous contrainte ou pas. Voilà, il y a tout un tas d'échéances et de procédures, et en gros, c'est la création de ce fichier pour les aider à tenir les dates, quoi.
Et aussi tous les acteurs que ça concerne, puisqu'il y a aussi les autorités judiciaires, puisque la personne peut contester son hospitalisation devant le juge des libertés et de la détention. Du coup, il y a à la fois des autorités judiciaires, l'avocat de la personne, etc. Donc, prétendument, ce serait pour coordonner et avoir une trace claire de toutes les personnes qui sont impliquées.
Ouais, et puis c'est pour qu'ils savent à quel moment ils doivent faire des rapports à telle autorité, voilà, pour que les médecins savent à quel moment ils doivent faire des rapports et tout, enfin, au sein de l'établissement de santé, qu'ils savent ça. Du coup, dans différents, ce dossier Gypsy, il va servir après de modèle un peu pour différents établissements de santé qui vont se dire ah, c'est cool d'avoir un fichier comme ça, ça nous facilite le travail, et qui vont donc au sein de leur propre établissement monter des fichiers sur un modèle un peu pareil. Et jusqu'en 1994, où il y a du coup le fichier OPSI qui est créé. Et qui est généralisé, le fichier OPSI qui est généralisé. Du coup, il est administré par les DAS, donc Direction départementale des affaires sanitaires et sociales. Et cette fois-ci, il regroupe des informations uniquement sur les personnes hospitalisées sous contrainte. Contrairement à du coup ce que je disais tout à l'heure, les dossiers qui étaient avant par établissement, où il y avait à la fois des infos sur les personnes en soins libres, les personnes sous contrainte. Là, il n'y a plus que ça concerne uniquement les personnes hospitalisées sous contrainte. Et les deux buts qui sont affichés, les deux objectifs qui sont affichés pour OPSI, c'est d'avoir une gestion automatisée des suivis. Donc, ce que j'expliquais tout à l'heure pour être sûr que ils loupent pas la date et que la personne pourrait pas sortir parce que ils ont c'est aussi ça hein. Leur crainte, c'est aussi que la personne elle conteste à un moment son hospitalisation parce que ils se sont plantés et qu'ils ont oublié de faire quelque chose qu'ils étaient censés faire pour pouvoir continuer à enfermer la personne. Et le deuxième but, c'est de faire des statistiques au niveau régional sur les hospitalisations sous contrainte. Du coup, c'est géré par les DAS, mais il n'y a pas un fichier national encore à ce moment-là. Les infos qui sont présentes dans OPSI, c'est sur l'identité de la personne qui est hospitalisée sous contrainte, donc son nom, son prénom, date et lieu de naissance, profession, adresse. Des informations sur l'identité de la personne qui demande l'hospitalisation, puisque du coup, une hospitalisation sous contrainte, ça peut être demandé par une autorité préfectorale, mais ça peut aussi être demandé par un proche. Du coup, le nom du proche, prénom, profession, adresse, l'identité des médecins qui font les certificats qui sont prévus par la loi pour faire l'hospitalisation sous contrainte, donc nom, adresse professionnelle. Des informations en rapport avec la justice, donc plus est-ce que la personne, elle a été jugé irresponsable pénalement, enfin qu'elle a été considérée irresponsable pénalement de certaines infractions, et des infos sur le lieu d'hospitalisation, la date des certificats, la date des hospitalisations, le mode de sortie. Donc toutes ces données-là, donc il y a quand même pas mal de données, toutes ces données-là, elles sont conservées pendant un an après la sortie de la personne quand son hospitalisation sous contrainte prend fin. Et les gens qui peuvent accéder à ces infos ou à une partie des infos, puisque chacun a aussi un accès un peu différent, ça va être le préfet du département, le procureur de la République, les membres de la commission départementale des hospitalisations psy, dans une certaine mesure, le maire et la famille. Du coup, c'est les personnes qui sont impliquées à un stade ou un autre dans le suivi de la mesure d'hospitalisation sous contrainte et qui sont censées qui l'ont demandé, soit qui l'ont décidé, donc que ce soit les médecins qui l'ont décidé, le préfet, voilà, ce genre de personnes-là. Donc, ça, c'est pour le dossier, les fichiers OPSI, du coup, et qui sont généralisés jusqu'à 2008, où il y a OPSI Web.
2018, pardon.
Ouais. Ah oui, et du coup, juste, je précise, pardon.
Vas-y.
Du coup, oui, c'était. Donc, à la base, c'était départemental, OPSI, géré par les DAS. Puis, à partir de 2010, quand il y a la création des ARS, des agences régionales de santé, ça devient déjà régional. Et du coup, dans chaque région, il y a un fichier OPSI.
Ça, c'est comment le fichier s'est constitué depuis jusqu'à 2018, et donc sur une base d'un fichier uniquement médical. Et à partir de 2018, il va y avoir des modifications qui vont un peu mettre la puce à l'oreille sur le pourquoi de ces modifications et des personnes qui vont être autorisées à y avoir accès. En mai 2018, le blog Zinzinzine sort un article qui commence par: Macron et ses sbires viennent de faire passer en loose day le 23 mai dernier un décret qui autorise maintenant le fichage des données personnelles de toutes les personnes hospitalisées sans consentement. Ça s'appelle OPSIWeb. Et en fait, ce qui va changer avec cette OPSIWeb, c'est que il va y avoir une consultation nationale des données collectées dans chaque département, prétendument dans un objectif de faire des statistiques. Donc ça, c'est une première chose. Deuxièmement, ces données-là qui, à la base, devaient être concernées conservés pardon, pendant un an vont l'être conservés pendant 3 ans. Pourquoi ? Et on se demande, est-ce que ça ressemble de moins en moins à un suivi et de plus en plus à un fichier, donc à du fichage. Sur ce fichier, il y a environ 100 000 personnes et sont conservés leur nom, leur prénom, leur domicile, leur date et lieu de naissance, ainsi que, comme tu l'as dit Alix, des renseignements sur les antécédents judiciaires et tout ce qui concerne l'hospitalisation sous contrainte. Après, il va y avoir des différentes modifications par décret qui vont mener en 2020 et en 2022 à, et c'est pour ça qu'on, aussi la raison pour laquelle on avait envie d'en parler dans cette émission, à un croisement avec le fichier des personnes soupçonnées de radicalisation terroriste. À ce croisement-là et à un accès à différents services de renseignement et de police qu'on va détailler dans la suite de l'émission. Mais avant ça, on va peut-être s'écouter une musique, sauf si tu veux rajouter des éléments.
Ouais, peut-être que dire du coup le gros passage de OPSI à OPSI Web. Ce qu'il faut retenir un peu, parce que là, des fois, j'ai l'impression qu'on se noie un peu dans les détails. Mais ce qui est important, c'est que du coup, c'est le passage à un fichier national. Mais toujours ce qui est affiché, en tout cas au moment de la création d'OPSI Web, c'est de pouvoir faire des statistiques au niveau national, donc en disant que ça permettra de faire des politiques de santé publique plus adaptées si on a des chiffres au niveau national, que c'est voilà, pour de la visibilité pour le ministère de la Santé, quoi, en gros. Et que c'est pour... que c'est un outil qui est pratique pour que chaque établissement puisse suivre ses patients aussi. Mais du coup... Tout le truc après que tu disais de l'interconnexion avec un autre fichier dont on parlera après, c'est pas du tout ce qui est mis en avant au moment de la création d'OPSI Web. Ça, c'est par la suite, quelques mois après, que va y avoir cette nouvelle évolution dont on parlera. Mais au moment de la création d'OPSI Web, ils disent pas du tout que va y avoir d'autres gens qui vont pouvoir consulter ce dossier, quoi, ce fichier.
Même si, et c'est des thèses, enfin des suppositions qui sont faites par différentes personnes qui ont étudié un peu de manière, qui ont exploré de manière très chiante mais utile Légifrance et l'évolution des décrets, on peut se demander si dès 2018 ces nouvelles mesures ne préfigure pas que ce fichier-là va servir justement à faire du fichage et à faire de la surveillance.
Bah, ouais. Ça, c'est un peu ce qu'on va voir par la suite de l'émission. Mais oui, en tout cas, ce qui est affiché, c'est que c'est pour des raisons médicales. Mais après, on va se rendre compte qu'en fait, parce que très très vite, ça va être détourné pour d'autres choses. Et ça, on va en venir dans la suite de l'émission.
Mais avant ça, on va s'écouter... You Make Me Feel Mighty Real de Sylvester, sur lequel va Sylvester, qui est un chanteur iconique de disco américaine, noir, gay, séropositif, qui a été à la fois chanteur, musicien et en même temps qui portait des luttes importantes dont on va porter la mémoire en écoutant You Make Me Feel Mighty Real. We'll be right back. Vous croyez être sur Nostalgie, mais non, vous êtes sur Radio Libertaire 89.4 dans Carapatage, l'émission contre toutes les cages, qui a lieu le 1er et le 3e mercredi du mois, de 20h30 à 22h environ. Vous pouvez nous écrire sur Instagram, @carapatage, nous appeler au studio pendant les musiques au 01 43 71 89 40, nous écrire par mail carapatage@riseup.net ou encore consulter notre blog carapatage.noblogs.org. Et ça me fait penser que je n'ai pas donné nos coordonnées postales, qui sont Carapatage, 4 Villa Stendhal, 75 020 Paris, pour nous écrire de l'intérieur ou de l'extérieur. On continue notre émission sur OpsyWeb et le fichage des personnes psychiatrisées. Donc on disait à la base c'était un fichier local puis régional qui est devenu un sorte de, voilà, de gros fichier national consultable, voilà, consultable de manière nationale. On va voir maintenant ce que ça a donné par la suite avec un croisement avec un autre fichier et les dérives dont on a peur que ça peut causer.
Ouais, alors si on avait envie de parler d'OpsyWeb, enfin déjà OpsyWeb, comme on a commencé à le dire tout à l'heure, ça pose plein de questions, parce que du coup, à la base, c'est pas censé être du fichage, c'est censé être un outil de suivi, et on voit que ça reprend du coup toutes les des infos sur toutes les personnes qui sont hospitalisées sous contrainte en France, et que les données, elles peuvent être conservées jusqu'à 3 ans après la sortie d'hospitalisation. Donc, si c'est juste du suivi, pourquoi aussi longtemps ? Et on va comprendre avec le décret. Donc, OpsyWeb, ça a été créé par un décret le 23 mai 2018. Et il y a un nouveau décret le 6 mai 2019 qui permet le croisement avec le FSPTR, donc le fichier du traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste. Donc je vais revenir un petit peu sur ce que c'est ce FSPTR, et ça va nous... on va bien voir pourquoi cette interconnexion entre les deux fichiers, c'est en fait un peu ce qui était pensé dès le début quand ils l'ont mis en place. Et que c'est pour ça aussi qu'ils voulaient que les données dans OpsyWeb restent un peu longtemps, parce que si elles sont effacées vite, c'est moins facile de faire de l'interconnexion entre deux fichiers. Donc le FSPRT, pardon.
Hyper dur à dire.
D'ailleurs, j'ai écrit FSPTR et FSPRT à deux endroits.
Moi, j'ai FSPRT, fichier de signalement des personnes supposées de radicalisation.
C'est FSPRT. Tout à l'heure, j'ai dit FSPTR, mais c'est FSPRT. Du coup, c'est un fichier qui est créé par un décret en 2015, donc le 5 mars 2015. C'est une base de données, en gros, qui regroupe des infos sur les personnes qui sont soupçonnées d'être radicalisées, de vouloir faire des actions terroristes ou se rendre à l'étranger. En gros, il y a beaucoup de fiches S dans ce FSPRT. Pas toutes, je crois, mais une grosse partie. Donc les fiches S des personnes qui sont surveillées dans le cadre de l'antiterro. Et c'est beaucoup, du coup, ces fiches-là qui constituent le fichier. Ce fichier, il est divisé en 6 catégories. Les gens, ils sont classés à l'intérieur même du fichier entre le niveau de radicalisation, s'ils sont considérés en haut du spectre ou en bas du spectre, et au degré de surveillance qu'on leur attribue. Si c'est en cours d'évaluation, en veille, si c'est attribué à un service de renseignement ou fiche active. Ça, c'est les classifications officielles qu'ils utilisent. Et du coup, chaque personne qui est fichée dans le FSPRT a un chef de file, enfin en gros un responsable du suivi qui lui est attribué. En 2020, on estime qu'il y a environ 8000 personnes qui sont dans le FSPRT. FSPRT, il faut savoir que son fonctionnement, ça reste assez flou et opaque. Parce que, étant donné que c'est sûreté de l'État, du coup, ça sert aussi à ne, ça leur sert aussi à ne pas donner trop d'infos exactes sur son fonctionnement, quoi, en disant que bah que ça, ça serait dangereux que le fonctionnement soit plus connu que ça. Donc là, il y a ce FSPRT donc qui est créé en 2015. Donc 2015, c'est aussi un moment où en France il y a un certain nombre d'attentats. Mm-hmm. Donc c'est aussi ça qui fait que ce fichier est créé à ce moment-là. Et du coup, dès 2015, il y a pas mal. Donc on parle beaucoup de terrorisme à ce moment-là dans les médias, les politiques en parlent beaucoup aussi. Et il y a plusieurs, que ce soit dans les médias ou les politiques, il y a des liens qui, dans le discours public, sont établis entre troubles mentaux et radicalisation terroriste. Donc dès 2015, il commence à se dire « Ah, il faudrait qu'on ait plus... qu'on arrive à faire à avoir un peu une vision sur les personnes qui souffrent de troubles psy, est-ce qu'elles risqueraient pas de commettre un attentat. Et du coup, il y a deux présupposés à ce moment-là qui vont conduire du coup à croiser le FSPRT et OpsyWeb. C'est ces deux présupposés, c'est que les personnes du coup radicalisées, enfin qui sont dans l'idéologie radicalisation islamiste, ils disent voilà que ces personnes-là présenteraient davantage de troubles mentaux que le reste de la population, et que les personnes qui souffrent de troubles psy seraient plus potentiel de commettre un attentat en imitant les djihadistes. Voilà, ça c'est ce qui va être mis en avant par les politiques. Par exemple, Gérard Collomb en premier lieu, qui est ministre de l'Intérieur, qui va beaucoup marteler ça en s'appuyant sur des chiffres qui sont assez critiqués, parce que généralement, il ne donne pas ses sources. Du coup, on ne sait pas d'où il sort les chiffres qu'il avance. Et voilà, c'est les deux présupposés du coup, de la classe politique, mais qui sont très critiquables, parce qu'à côté, il y a tout un tas de gens qui disent que c'est pathologiser le terrorisme, mais que c'est pas forcément qu'il n'y a pas plus de troubles psy chez les personnes qui sont incarcérées pour terrorisme que dans le reste de la population, et que pareil, il n'y a pas, tous ces présupposés-là, comme quoi il y aurait un lien entre troubles psy et terrorisme, c'est des choses qui sont très critiqué par ailleurs, quoi. Mais du coup, tout ce discours-là, ça va quand même préparer l'interconnexion des dossiers, dont tu vas un peu revenir dessus, du coup, sur l'interconnexion.
Oui, alors ça, c'est en raison de deux décrets qui ont eu lieu en 2020 et en 2022.
Non, dès 2019.
2019.
En 2019, du coup, le 6 mai 2019, il y a un premier décret qui va permettre, du coup, le croisement de OpsyWeb avec le FCPTR, du coup, qui va permettre, en gros... l'interconnexion, comme les deux fichiers, ils sont automatisés, qui sont dématérialisés, quoi. C'est pas des fichiers papier. Du coup, ça va techniquement. À la base, c'était deux fichiers complètement séparés, qui sont pas accessibles par les mêmes personnes non plus, parce que OpsyWeb, du coup, c'est plus. Il y a des autorités préfectorales, mais c'est dans le cadre de l'hospitalisation sous contrainte qu'ils peuvent avoir accès à ces fichiers. Et le FSPTR, c'est plus les services de renseignement qui ont accès à ces fichiers-là. Et du coup, l'idée de l'interconnexion, c'est de pouvoir détecter les personnes
qui sont dans les deux.
Qui sont radicalisées. Du coup, de trouver, détecter les personnes qui sont dans les deux, avec cette idée que c'est ces personnes-là qui risquent de commettre des attentats et que du coup, il faudrait une surveillance accrue sur ces personnes-là.
Et du coup, de manière concrète, la manière dont ça va se passer, c'est que toutes les 24 heures, les deux fichiers sont interconnectés. Et s'il y a une identité qui correspond, qui est présente dans les deux, il va y avoir un mail au préfet du département pour l'avertir. Et il va s'en suivre une procédure de levée de doute pour vérifier que c'est la même personne. Une fois que cette procédure...
Parce que du coup, ce que le fichier cherche, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce que toutes les personnes qui, dans les dernières 24 heures, ont été rajoutées, soit sur OpsiWeb, soit sur le FSPRT, est-ce que le nom, prénom, date de naissance correspond à un nom, prénom, date de naissance connu sur l'autre fichier, quoi.
Et si c'est le cas, s'il y a une nouvelle entrée et que l'identité de la personne est vérifiée, les éléments vont être communiqués. C'est marqué dans le décret à raison de leur mission de lutte contre le terrorisme à la Direction générale de la sécurité intérieure, à la Direction du renseignement de la sécurité et de la défense, au service de renseignement territorial de la Direction centrale de la sécurité publique et des directions territoriales de la police nationale, bref, à la police, à la Direction du renseignement de la préfecture de police, au service national de renseignement pénitentiaire et à la sous-direction de l'anticipation opérationnelle de la direction des opérations et de l'emploi de la direction de la générale de la gendarmerie nationale, c'est-à-dire voilà, donc à différentes autorités policières et de renseignement. Donc ça, encore une fois, c'est pas très clair les conséquences que cette interconnexion va avoir, mais on peut supposer des mesures de surveillance de la personne dont l'identité dont l'interconnexion a fait ressortir l'identité, une vérification du moment où elle va sortir de son hospitalisation, etc. Mais voilà, c'est comme c'est des fichiers sur lesquels c'est compliqué d'avoir des informations, c'est aussi compliqué de savoir les conséquences que ça va avoir sur la vie des gens et leur surveillance. Comme tu voulais ajouter quelque chose ?
Bah, j'ai l'impression qu'une conséquence qu'on peut imaginer, même si j'espère que c'est pas ça qui va se passer pour les gens, mais c'est que de fait, du coup, alors j'ai pas bien suivi la liste que t'as donnée de tous ces gens qui seront au courant de cette interconnexion. Mais ce que je me dis, c'est si un préfet qui a pris une décision, par exemple, d'hospitalisation sous contrainte d'une personne, il est averti que la personne, elle est par ailleurs dans le fichier suspicion de radicalisation. Ce qui peut se passer, c'est qu'aussi que ça entraîne de pas laisser sortir les gens, en fait, tout simplement, quoi, et de les garder hospitalisés ad vitam aeternam pour éviter un éventuel passage à l'acte. Voilà, j'ai l'impression que ça, c'est une conséquence. Alors peut-être si les mais je pense que les préfets, eux, ils ont accès à cette interconnexion ou non, pardon, t'as fait la liste, je me suis un peu perdue.
C'est la première personne qui est prévenue, enfin en tout cas la personne en charge de cette question-là à la préfecture, qui ensuite le communique à d'autres autorités policières, okay, de renseignement, etc. Donc de toute façon, la préfecture est au cœur de cette interconnexion, quoi.
Mais oui, c'est un des trucs qui a avancé. Du coup, le préfet, il risque de demander le renouvellement de l'hospitalisation sous contrainte pour motif de risque pour l'ordre public, quoi, plus facilement que s'il n'y avait pas cette info-là. Ça pose aussi des questions sur les soins, parce que les médecins peuvent aussi être prévenus, du coup, enfin le préfet peut leur dire qu'il demande aussi ça parce que la personne est soupçonnée de radicalisation. Du coup, en théorie, c'est pas censé intervenir sur le médecin n'est pas censé forcément prendre ça en compte pour dire est-ce que l'état de santé de la personne nécessite son maintien en hospitalisation sous contrainte ou pas, mais on peut bien penser qu'il va quand même être influencé par les informations qui vont lui être transmises. Et c'est aussi... du coup, des gens où leur fiche, leur surveillance, du coup, comme j'expliquais dans le dossier FSPRT, il y a différentes catégories et les gens sont plus ou moins surveillés selon la catégorie dans laquelle ils sont fichés. Et du coup, le fait d'être passé par une hospitalisation psy, ça fait que du coup, ils vont avoir une plus forte surveillance à leur sortie que s'ils n'étaient pas passés par une hospitalisation sous contrainte.
Ouais, je pense aussi que c'est important de dire que là, on parle d'hospitalisation sous contrainte depuis le début de l'émission, et on l'avait déjà précédemment dit dans l'émission qu'on a faite là-dessus, que ça s'appelle hospitalisation, mais que ça ressemble beaucoup à une mesure d'enfermement, et que du coup, l'interconnexion de ces fichiers, elle pose aussi question par rapport aux fichiers de suspicion de radicalisation terroriste. Quel va être l'avenir de ce fichier dans un contexte où il y a beaucoup de racisme et d'islamophobie, que des personnes peuvent être fichées en raison de leur fréquentation, leur religion et leur fréquentation, par exemple, d'une mosquée. Et donc, quelles vont être aussi les conséquences de cette interconnexion, de ce fichage et à terme l'accès aux soins psy pour les personnes racisées et ou étrangères quoi. Et donc en fait c'est des outils qui existent aujourd'hui et qu'on pas encore forcément des outils, des fichiers, du fichage qu'on pas encore forcément aujourd'hui des conséquences graves, mais qui pourront en avoir encore plus avec l'accroissement de la surveillance, du fichage, voilà quoi. Comme tu veux, ouais.
Juste pour rappeler quand on dit aussi que les hospitalisations sous contrainte, c'est de l'enfermement, mais aussi du coup quand les gens sont libérés entre guillemets, bah il y a aussi des formes de conditionnels et notamment des soins imposés avec des injections de force que si tu les refuses tu retournes dedans et tout ça. Enfin, voilà, on en avait déjà pas mal parlé dans les autres émissions sur le sujet, mais du coup que ça va aussi jouer peut-être sur ces conditions au moment de la sortie et où du coup on voit bien, enfin c'était déjà le cas avant, que le soin soit utilisé comme un outil répressif et de maintien de l'ordre, et du coup là c'est toujours plus clair que c'est ça qui se joue quoi quand il y a un croisement comme ça, et que peut-être qu'est-ce qui va pousser les médecins à décréter des soins entre guillemets, c'est-à-dire des injonctions de force, ça va être un truc policier ou politique de suspicion sur quelqu'un quoi.
Mm-hmm. Ouais, je pense que y a ça, et il y a, comme on l'a dit, ces mesures, enfin ces nouvelles lois, ces nouvelles mesures et le discours public qui est autour de ça, enfin créer une supposition que les personnes psychiatrisées sont dangereuses, alors qu'au contraire, comme on l'a déjà dit, les personnes psychiatrisées, les personnes qui sont amenées à être hospitalisées sous contrainte sont le plus souvent dangereuses pour elles-mêmes, ou alors subissent des agressions de la part de personnes qui profitent de leur faiblesse et de leur situation. Et donc du coup tout ce discours public renforce aussi la psychophobie et la supposition que les personnes psychiatrisées sont dangereuses. Un autre truc qu'on voulait ajouter aussi concernant la question de la psychiatrisation, c'est aussi que les conditions dans les conditions que la société impose aux individus, que ce soit la migration, les frontières, etc., vont créer de la souffrance. Et donc de la souffrance psy qui parfois va amener à ce que les personnes se fassent donc enfermer et hospitaliser sous contrainte quoi. Et donc ce qu'on voit,
c'est sûr que c'est vraiment une vision du risque zéro. Enfin d'ailleurs tous ces différents décrets dont on parle, c'est souvent suite à des annonces qui ont eu lieu après des faits divers. Mm-hmm. Et c'est beaucoup une vision il faut que finalement ce qui est, où on s'en fout un peu des gens et où c'est plus savoir qui surveiller et mettre en place des surveillances pour éviter parce que ils craignent qu'il y ait un attentat ou quelque chose, mais il y a pas du tout, enfin c'est vraiment loin du soin. Enfin, cette interconnexion, elle apporte absolument rien en termes de soins et en termes de remise en cause de est-ce qu'il y a aussi des conditions de vie, des conditions sociales, des oppressions qui créent de la souffrance et que ça, c'est il n'y a pas du tout de discours dessus ou de l'accès aux soins qui peut être aussi compliqué. Qui est de plus en plus compliqué, notamment quand on n'a pas forcément de moyens financiers pour aller dans des cliniques privées ou des trucs comme ça. Où du coup, ça. Voilà, où finalement, les gens, ils s'y intéressent quand ils considèrent qu'ils présentent un risque, mais tant que les gens ne sont pas considérés comme représentant un risque. Ils s'en foutent un peu, quoi.
Mmh. Et il n'y a pas de soins qui est proposé, et même d'amélioration des conditions, en fait, qui vont mener à toute cette souffrance, quoi. Est-ce qu'on s'écoute une petite musique maintenant, ou est-ce qu'on continue on s'écoute une petite musique, là on a besoin de se reposer un peu. On va finir cette émission, en tout cas clore sur ce sujet-là, en discutant encore de quelques autres questions, de l'accroissement de la surveillance et de la porosité entre le médical et la surveillance, le judiciaire. Mais avant ça, on va s'écouter 14% de Lagal. Lagal, c'est une rappeuse suisse, et dans cette musique, elle parle de la gentrification de Lausanne.
Ils ont triplé les loyers, le quartier a trop géchant, les vieux troquets sont tous fermés, tout est à vendre sur Comparis, à un prix qui te pousserait au vice. Avant les poubelles s'entassaient, maintenant c'est des bagnoles de police, des barres de merde ou sirotées, cocktail à 25 balles et dans ma rue de l'autre côté, les ambulances tournent en spirale, ils ont remplacé les OD par des comas éthyliques, de fils de bourges encanaillés qui tiennent pas leur barbiturique. Ça claque la thune en terrasse, c'est le temps béni des colonies, sont découverts où se mettent la race en chiant sur notre géographie. Boutique à 3, t-shirt et demi, slogan pété, pseudo-walk. Release party tous les jeudis, sponsorisé par Spritz et Coke. Ils se foutent bien de nos sorts merdiques pendant le restant de l'année. Ils apprécient le côté exotique, l'odeur de pisse sur nos pavés. Ils parlent de démarches inclusives, mais leurs tables sont réservées. On crache dans leurs apéritifs, leurs pop-up stores, leurs cafés. Des gens très fiers de leurs vitrines, où tu peux te payer leur tête. Ça gentrifie même les latrines, du moment que ça enfle les recettes. On a les artistes qu'on mérite, je fais du recel de météores. Cette ville, un mirage que je déplore. Moi je veux moins de poules et plus de frites. Paraîtrait qu'il faut qu'on bouge car il n'y a guère de place. Et puis des fois qu'on voit rouge, ce sera une guerre de classe. Ils pensaient nettoyer le quartier mais la crasse est tenace. On a ralenti le processus, leur conquête de l'espace. Paraîtrait qu'il faut qu'on bouge car il n'y a guère de place. Et puis des fois qu'on voit rouge, ce sera une guerre de classe. On s'est fait tèche et puis retèche, les bourgeois nous remplacent. C'est dans leur sourire colgate qu'on va tailler au schlasse. Crise d'angoisse, contre-maître, ça prend des mesures.
voiture en bas de l'immeuble. Expulsion, avis d'enquête, ça fait quoi de faire partie des meubles? De la bière tiède dans nos canettes, on connaît pas vos chansonnettes. Gardez vos brunchs, vos planchettes, on bouffe pas dans les mêmes assiettes. Des bars, lounge, des coffee shops pour Marc-Antoine et Pénélope. Microbrasserie, open space, et nous c'est le trottoir qu'on nous laisse. Avant ils étaient en petit nombre, ils voudraient changer le code postal quand un toxico les encombre. Panique totale, ils copieraient même nos ratures car ils aiment ridiculiser. Savent pas comment tiennent les murs, leur culture. Une pièce rapportée, j'invente que dalle et tu sais quoi. On fait partie des oubliés quand ils traîneront en bas de chez toi. Feront doubler le prix de l'immobilier. Ils feront croire qu'ils sont conscients des problèmes voisinage, que tout se fait équitablement, qu'il n'y a jamais de copinage. Je me demande à quoi ça va ressembler quand ils auront têche tout le monde. Je te parie que là où on ira, ils nous suivront dans les deux secondes. C'est pas une ode à Montier-Car, c'est un crash à spontané. Entrez dans vos maisons sous gare et arrêtez de nous les briser. Lausanne, je t'aime, mais t'as changé. J'ai plus confiance en tes jeux de piste. Pas besoin de m'en tenir informé. Retire-moi de ta mailing list. Paraîtrait qu'il faut qu'on bouge car il n'y a guère de place. Et puis des fois qu'on voit où ce sera une guerre de classe. Ils pensaient nettoyer le quartier mais la crasse est tenace. On a ralenti le processus, leur conquête de l'espace. Paraîtrait qu'il faut qu'on bouge car il n'y a guère de place. Et puis des fois qu'on voit où ce sera une guerre de classe. On s'est fêté, j'ai pu retèche, les bourgeois nous remplacent. C'est dans leur sourire coquet qu'on va tailler en chasse.
On est de retour dans Carapatage. Ce soir, on fait une émission autour du fichage des personnes psychiatrisées et de l'interconnexion qu'il y a eu ces dernières années avec le fichier des personnes soupçonnées de radicalisation terroriste. Et du coup, pour faire un peu la synthèse de tout ce qu'on a dit, Alix, tu voulais repréciser des trucs ?
Ouais, je voulais repréciser parce que comme on parle de beaucoup de fichiers, c'est peut-être pas toujours très facile de nous suivre toute cette émission. Du coup, repréciser que du coup, il y a OpsyWeb, environ 100 000 personnes. C'est toutes les personnes hospitalisées sous contrainte qui, à leur sortie, restent dans ce fichier pendant 3 ans. Et donc, OpsyWeb, qui y a accès ? Qui a accès aux infos de ce fichier, c'est à la fois le préfet du département, le procureur de la République, les membres de la commission départementale des hospitalisations psychiatriques et une certaine partie du fichier, le maire et la famille quand c'est elle qui a demandé l'hospitalisation sous contrainte. Du coup, ça fait déjà beaucoup de monde, mais c'est censé être les personnes impliquées dans la mesure de l'hospitalisation sous contrainte qui joue un rôle à un moment ou à l'autre dans la procédure fait qu'il y a cette hospitalisation sous contrainte qui a lieu. Donc ça, c'est pour OpsyWeb. Après, il y a le FSPRT dont on parlait, donc pour les personnes, la surveillance des personnes radicalisées, où là, il y a environ 8000 personnes. C'est notamment des fiches S, et là c'est tout, surtout tous les services de renseignement qui ont accès à ce fichier-là. Et depuis 2019 qu'il y a l'interconnexion entre les deux, l'accès à OpsyWeb est élargi pour toute une catégorie de personnes qui bossent dans la police, la gendarmerie, le renseignement. Mais du coup, eux, ils ont accès aux données qui concerne les personnes qui sont à la fois sur OpsyWeb et à la fois sur le FSPRT. Donc, ils n'ont pas accès aux données des personnes qui sont sur OpsyWeb, mais qui ne sont pas fichées dans le FSPRT. C'est juste en cas d'une identité qui se trouve dans ces deux fichiers-là que ces personnes-là ont accès aux données d'OpsyWeb. Mais du coup, ça pose...
Vas-y.
Ça pose quand même beaucoup de questions parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes du sécuritaire qui se mettent à avoir accès à des données médicales. Alors, ce qui va être beaucoup dit par les... par le gouvernement, enfin par ceux qui défendent cette interconnexion-là, c'est que il n'y a pas tout le dossier médical, il n'y a pas la pathologie exacte de la personne, blablabla, mais il y a quand même plein d'infos sur ses identités, son identité, l'identité de ses proches, à quelle date elle a été hospitalisée, quel est le mode de sortie, enfin il y a quand même tout un tas d'infos qui normalement n'ont pas à être, enfin qui d'après le secret médical sont pas censés être disponibles par des personnes autres que les professionnels de santé, enfin et même les professionnels de santé c'est censé, enfin sont pas censés avoir accès à tout ça normalement, et donc ça pose quand même vraiment question cet élargissement dans l'accès à OpsyWeb en cas du coup de match sur les deux fichiers. Ça pose question et ça laisse penser très fortement que OpsyWeb ça a été créé dès le début pour des raisons sécuritaires. Et enfin, nous, on pense que c'est le cas dans cette émission-là. Et pourquoi on dit ça ? C'est parce que OpsyWeb, du coup, je disais tout à l'heure, ça a été créé en mai 2018. Et du coup, la possibilité d'interconnexion, elle a été créée en mai 2019, donc un an, même pas un an après. Et du coup, tout ce discours que je disais tout à l'heure sur les liens entre terrorisme, troubles psy, c'est notamment dit dans un rapport dans le plan de lutte contre la radicalisation porté par le gouvernement en 2018, avant la création d'OpsyWeb, où le gouvernement dit qu'une des recommandations du coup de ce plan national de prévention de la radicalisation qui est publié par le gouvernement, une des recommandations, c'est d'actualiser les dispositions qui permettent, qui sont relatives à l'accès des fichiers OPSI. Du coup, les fichiers OPSI, ce que je disais avant, l'ancêtre d'OpsyWeb. Et du coup, ils disent direct quand ils font ce plan contre la radicalisation que il faudrait actualiser les modes d'accès à OPSI, et juste après il crée OpsyWeb et moins d'un an après il crée l'interconnexion entre les deux. Et du coup ce qui est dit par plein de gens, pas juste par nous, c'est que en fait dès le début, dès la création d'OpsyWeb, en fait ce fichier, ce qui a été affiché, c'est de faire des stats au niveau national, c'est de permettre d'avoir le même outil dans tous les établissements pour faciliter le suivi, ou s'il y a un médecin qui change d'établissement, il va réutiliser le même outil, il va pas devoir réapprendre à servir d'un outil informatique, mais que en réalité, si ça a été créé, c'est avant tout parce qu'il y avait besoin qu'il y ait ce fichier national pour que l'interconnexion avec le FSPRT, elle ait du sens.
Pour faire de la surveillance de ces personnes-là, quoi.
S'il n'y avait pas de fichier national, c'était pas possible de faire de l'interconnexion entre les deux. Et du coup, il y avait besoin qu'il y ait un fichier national qui existe pour permettre cette interconnexion. Et voilà, c'est quand même assez, nous, ça nous a assez marqué en préparant l'émission, parce que ça montre bien, on le savait déjà, qu'entre médical et sécuritaire, aujourd'hui, il y a des forts liens sur tout un tas de trucs. Mais ça montre bien qu'il y a même des fichiers médicaux qui sont des bases de données qui sont dites comme médicales. C'est ça l'objectif qui est affiché, mais où en fait...
Elles sont détournées.
Elles sont, non seulement elles sont détournées, mais elles sont même créées pour pouvoir qu'il y ait de l'interconnexion après, quoi.
Je dirais même que même avant la création d'OpsyWeb, c'est pas anodin qu'il y ait un fichage des personnes psychiatrisées sous contrainte. Le fait que des autorités elles aient une trace de ça, même avant qu'OpsyWeb existe, avant 2018, c'est arrivé que ce soit utilisé pour réhospitaliser des gens. Et je pense notamment à une histoire d'une personne qui s'était fait arrêter à Paris sur une manif de solidarité avec les réfugiés de la Chapelle, je crois, qui s'est retrouvée, qui a été déclarée non compatible avec la garde à vue pour raison psy, qui s'est retrouvée à l'I3P, l'Institut psychiatrique de la préfecture de Paris, dont on avait déjà parlé aussi dans une émission, qui est un espèce de sas entre la garde à vue et l'hôpital psy. Et sur la base justement d'OPSI, que du coup du fichier OPSI, qui disait qu'elle avait déjà été hospitalisée, ça a été un argument pour la placer à nouveau en hospitalisation sous contrainte, quoi. Ça fait quand même un précédent, comme un casier judiciaire pour les condamnations pénales. Mmh. Du coup, même avant OpsiWeb, c'était déjà utilisé le fait de ficher les personnes psychiatrisées dans comme un truc sécuritaire, quoi. Mmh.
Ouais, ça crée un sorte de fichier, enfin de casier psychiatrique, comme tu dis, parallèle au casier judiciaire, mais qui concerne de est-ce que tu as déjà été hospitalisé sous contrainte, et si oui, ça crée un précédent qui fait qu'on t'y refoue plus facilement, quoi.
Mm. Et puis ça montre aussi tous ces trucs comme quoi c'est pas perçu comme des fichiers à la base. Enfin, c'est toutes ces bases de données numériques où ce qui va être mis en avant, c'est pas on va créer un nouveau fichier pour ficher des gens. Enfin, aujourd'hui, quoique ça pourrait être mis en avant, je ne sais pas si ça passerait peut-être crème, mais en tout cas, ce qui est souvent mis en avant, enfin dans ces cas-là, ce qui a été mis en avant à des moments, c'est des outils de gestion,
ouais, suivi
pour
gestion.
Faciliter la gestion, c'est pas des fichiers. Et après, on voit qu'en fait, toutes ces bases de données, elles existent et du coup,
elles se transforment.
Ça serait trop dommage pour eux de ne pas utiliser ces bases de données qui sont là, qui sont déjà créées pour autre chose que la gestion à l'intérieur de l'établissement, quoi.
Mm-hmm. D'ailleurs, ça fait le lien avec la dernière chose qu'on voulait évoquer dans l'émission, qui est le dossier médical partagé, qui aujourd'hui, enfin, c'est l'ancien nom, aujourd'hui ça s'appelle Mon Espace Santé, et c'est la création automatique d'un sorte de dossier médical en ligne ces dernières années, se fait automatiquement pour tous les usagers de la sécurité sociale, sauf refus explicite de l'utilisateur, qui pose plein de questions de consentement et de protection des données, et donc dont on ne sait pas ce qui pourrait être fait de ces données, parce qu'en fait notamment tous les soignants qui ont accès à ce dossier ont accès à des informations qui ne les concernent pas, ce qui peut par exemple outer une personne trans à son dentiste qui a priori n'aurait pas besoin de cette information. Donc il y a un gros manque de confidentialité sur ce Mon Espace Santé, aussi pour les enfants et les adolescents qui sont assurés via leurs parents, et ce qui peut par exemple être un problème en cas d'IVG ou d'autres actions de soins que des enfants ou des adolescents ne voudraient pas révéler à leurs parents. Mon Espace Santé est accessible potentiellement par des agents de la Caisse primaire d'assurance maladie et aussi les prestataires de services qui gèrent cette base de données. Ils ont accès potentiellement à des informations qui relèvent du secret médical et on ne sait pas lesquelles et comment. Comme c'est géré par un prestataire privé, il y a une possibilité de piratage de ces données privées et médicales parce qu'on ne sait pas exactement est-ce qu'elles sont sécurisées suffisamment. On se demande du coup aussi à l'avenir aujourd'hui, l'utilisation de Mon Espace Santé, elle n'est pas obligatoire pour tous. On peut continuer à être remboursé et à se faire soigner sans. Mais est-ce qu'à l'avenir, comme plein d'autres services dématérialisés, le fait d'être remboursé et d'être soigné passera obligatoirement par son utilisation? Et ce qui fait que, par exemple, la Quadrature du Net suggère aujourd'hui de faire supprimer cet espace et met à disposition des guides pour le faire qu'on vous mettra sur le site. Voilà. Donc c'est un autre exemple de dématérialisation de fichiers médicaux qui n'est pas de bon augure pour concernant le fichage et la surveillance de nos données.
Et du coup, sur ce dossier, sur cet espace, mon espace santé, il y a toutes les hospitalisations, si je ne dis pas de bêtises, du coup, y compris les hospitalisations psy, pour en revenir aussi à notre au fichage des personnes psychiatrisées. Et il y a aussi toutes les ordonnances, du coup, tout pareil, tous les médicaments que... où tu as eu des ordonnances, elles apparaissent dessus. Et le truc aussi que je voulais rajouter sur les enjeux que je vois, c'est que du coup, tous les soignants, soignantes y ont accès. C'est-à-dire que si tu vas en prison, le médecin qui va te suivre en prison, il va avoir accès à ça. Le psychiatre qui va te suivre en prison, il va avoir accès à ça. C'est-à-dire que pareil, si tu veux cacher, je sais pas, des trucs que tu as envie de cacher, par exemple, le fait que t'aies pu être suicidaire à des moments dans ta vie, parce que ça, par exemple, c'est des choses dont, pareil, on a déjà parlé ici, qu'en prison, ça peut faire des trucs de contrôle, enfin, de conditions de détention qui sont plus dures, si on considère que t'es potentiellement suicidaire, par exemple. Et du coup, en prison, mais aussi le médecin de garde à vue, par exemple. Enfin, voilà, c'est aussi ces soignants-là, et ça, peut-être aussi, c'est un truc dont on pourrait parler, mais de tous ces les médecins qui interviennent à des moments où, je sais pas, dans les. Ouais, voilà, dans des moments où t'es privé de ta liberté et où, du coup, t'as pas envie. Il y a plein d'infos que tu n'as pas envie de donner, ben là, elles sont présentes dans ce dossier. Mais la bonne nouvelle pour le moment, c'est très facile quand même de le faire supprimer pour le moment, l'état des choses.
Mmh. Ouais, et puis, je pense aussi à des gens qui consultent un psychiatre et avec qui ça se passe mal. Mmh. Qui peuvent, pour une raison ou une autre, vouloir en consulter un autre et ne pas avoir envie
qu'un diagnostic soit transmis.
Parce que du coup, ça devient le diagnostic qui devient un peu éternel s'il est inscrit et que les autres professionnels de santé, les autres soignants, peuvent avoir accès à ce diagnostic-là. Alors qu'il y a aussi plein de gens, ben, notamment... notamment dans ce qui concerne les troubles psy, qui remettent en cause les diagnostics qu'on leur attribue et qui du coup n'ont pas du tout envie que ça se retrouve, que ce diagnostic les suive avec tous les soignants qui vont consulter par la suite, quoi.
Et là encore, on a, les arguments qui sont avancés, c'est que ce soit plus facile, que les gens ne perdent pas leur dossier médical et leurs papiers, que tout soit centralisé au même endroit. Et donc, du coup, une facilité, améliorer les soins et le suivi des soins, c'est vraiment ça qui est mis en avant pour mon espace santé. Mais malheureusement, derrière ça, on voit toutes les dérives possibles que ça peut avoir. Qui irait contre plutôt les intérêts des patients et des gens, quoi. Je crois qu'on va finir cette émission là-dessus. Ce sera probablement pas la dernière fois qu'on parle de fichage des personnes psychiatrisées, de contrôle, de psychiatrisation. Ça donnera lieu à d'autres émissions, mais pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. C'est Carapatage, l'émission contre toutes les cages. On se retrouve dans 15 jours pour une émission autour des luttes contre les établissements pour mineurs. Et d'ici là, vous pouvez nous retrouver sur notre blog, sur Instagram par mail si vous voulez nous écrire. Avant de se quitter, on souhaite force aux personnes qui sont à l'intérieur et qui nous écoutent et on va s'écouter Used to be Friends de Big Johnny.
Salut,
à plus. I like Contre toutes les cages. Carapatage, c'est une émission contre les prisons, la répression et le contrôle.
À travers l'actualité de l'enfermement, mais aussi son histoire.
En racontant les luttes à l'intérieur et à l'extérieur, en échangeant ce qu'on a vu, lu et entendu.
Carapatage, c'est tous les premiers et troisièmes mercredis du mois, de 20h30 à 22h.
Sur Radio Libertaire, 89.4 FM.
Carapatage, contre toutes les cages.
Si l'espoir revenait, tu ne croiras jamais. Dans le secret, dans l'amour fou, de toutes tes forces, va jusqu'au bout. Et si l'espoir revenez pour la noirceur du soleil
sur le sable des marées,
pour ta beauté au réveil,
pour mon calme retrouvé.
Et si l'espoir revenait, tu me croiras jamais. Dans le secret, dans l'amour fou, de toutes tes forces, va jusqu'au bout. Et si l'espoir revenait,
déjà l'aube sur ta cambrousse, t'enfiles tes bottes, ta salopette, le petit déj est pris sur le pouce, c'est ta routine 7 jours sur 7. On peut pas dire que t'es à la bourre, toi tu connais pas les horaires, et toute cette terre que tu laboures appartenait à ton grand-père. Y'a longtemps que tu comptes plus les heures, À quoi tu penses sur ton tracteur? Y a longtemps que tu comptes plus les heures sur ton tracteur. Tu revois ton père avec sa cotte sur le pont à 6 heures du mat, et sur la table une petite note: sois sage fiston et fais tes maths. N'embête pas trop ta mamie, tu seras gentil de l'aider un peu. Je serai là pour midi et demi, pile poil pour le pot au feu. Dont tu te rappelles encore l'odeur quand t'as les crocs sur ton tracteur. Dont tu te rappelles encore l'odeur sur ton tracteur. Si t'as baigné dans une culture, c'est bien dans celle des haricots que tu équeutais à la dure sur une pile de vieux journaux. Mamie, elle tricotait un pull en écoutant l'ancienne France Bleue. Tu le mets toujours d'ailleurs ce pull, disons que ça te la ramène un peu. Tout comme l'émission de 17h que tu écoutes sur ton tracteur. Tout comme l'émission de 17h sur ton tracteur. J'ai toujours aimé la moisson, et puis j'étais pas bien matheux. Je me suis construit une belle maison à 200 mètres de chez mes vieux. Je suis à la tête de l'entreprise aujourd'hui et j'en suis fier. À la télé ils parlent de crise, mais qu'est-ce qu'ils connaissent de la terre? Dans les bureaux des rédacteurs, ont-ils déjà vu un tracteur? Dans les bureaux des rédacteurs, ont-ils déjà vu un tracteur? C'est déjà la nuit sur ma cambrousse, je retire mes bottes, ma salopette. Mon fils suce encore son pouce, mais il s'occupe déjà des bêtes. Il aime pas bien les haricots et encore moins les équeutés. Il y a de plus en plus de vieux journaux, toujours un pull à tricoter. Et moi je me dis tout en bâillant qu'il faudrait que je dorme quelques heures et que peut-être dans 15 ans ce sera mon fils sur mon tracteur.
Plus mieux, en fait on est que dalle. On est que croque-monsieur quand la mort a la dalle. On se croit fortiche, on n'est pas très costaud. On est pris en sandwich quand la mort a les crocs. On joue les forts en gueule, on se targue de vivre. On finit à muse-gueule quand la mort s'enivre. On se voit fier comme l'éclair, on est déjà chocolat. Tout tordu de travers, seule la mort nous foudroie. On y croit dur comme fer, éternel, intouchable. Et nous voilà dessert quand madame passe à table. la croise au hasard dans un lit dans la rue. Elle nous dit à plus tard, je te mangerai tout cru. On pique-nique dans les champs, on parle de blé avenue Foch. Et le soir au couchant, c'est la faim qui nous fauche.
Planqué au centre-ville, les bitumes ancrés dans ma zone. La plage fait place à l'amertume, mon caisse brûlée par quelques mômes qui complètement déboussolés se mettent à s'auto-mutiler quand on leur apprend à l'école sur qui balancer leur peau de colle. Des profs qui approchent la soixantaine, qui à 20 ans craché leur haine direct à la gueule du pouvoir, ont-ils tous perdu la mémoire? Y'a plus de pavés, y'a plus de plage, y'a plus que des cons, des endormis, y'a plus que des mous dans mon pays. Où sont passés les gens ferrats, les sociétés, tu m'auras pas, reniés par nos chaînes de télé, réalité bien orchestrée. Sur ta radio, dans mon journal, à la fête de l'humanité, quand l'artiste vient d'Universal, et je dis bravo Jean-Marie Messier. Tous d'accord pour dire qu'on est con, oui mais franchement on n'a pas de peau. Quand on nous fabrique un mouton, à coûterait combien ces agneaux? Y'a plus de pavés, y'a plus de plage, y'a plus que des cons, des endormis, y'a plus que des mous dans mon pays. Les syndicats qui autrefois osaient fustiger le patronat baissent leurs frocs et puis leurs bras devant le MEDEF qui a cœur joie s'applique à flingue et code et droit sans résistance et sans émoi. Ils bricolent leur propre loi en nous disant qu'on n'a plus le choix. Notre société, elle est pourrie suite aux années un peu à gauche. Et vu l'odon post-tsunami, faut pas se plaindre, on n'est pas si pauvre. Y'a plus de pavés, y'a plus de plage, y'a plus rien du tout. Y'a plus que des cons, des endormis, y'a plus que des mous dans mon pays. Depuis le boulevard Jean Jaurès jusqu'à la Venelle Georges Brassens, quand je me balade pendant la messe, y'a plus que les routes Cadix qui rincent. Le PMU se remplit le tiroir caisse, les gens se voient prince ou princesse, les éléphants font du tire-fesse, par stratégie ou par paresse, par stratégie. Tous ces futurs présidents ont un passé bien répugnant. Pour le présent, l'immunité nous fera au moins 10 ans de pied de nez. Pour le présent, l'immunité, les faux temps vont se rhabiller. Y'a plus de pavés, y'a plus de plage, y a plus que des cons, des endormis. Et y a plus de pavés, y a plus de plage. Y a plus que des cons, des endormis. Et y a plus de pavés, y a plus de plage. Y a plus rien du tout, y a plus que des cons, des endormis. Y a plus que des mous dans mon pays. Y a plus de pavés, y a plus de plage. Y a plus que des cons, des endormis. Y a plus que des mous dans mon pays. Merci, bonsoir et à la prochaine. Il n'y a plus de pavé, il n'y a plus de plage, il n'y a plus rien du tout, il n'y a plus que des cons, des endormis, il n'y a plus que des mots. Y'a plus de pavé, y'a plus de plage, non, y'a plus rien du tout. Y'a plus que des cons, des endormis, y'a plus que des mots dans mon pays. Y'a plus de pavé, y'a plus de plage, y'a plus rien du tout. Y'a plus que des cons, des endormis, y'a plus que des mots dans mon pays. Au revoir et merci.
Des dents d'un tigre du Bengale, qui surgira de l'ombre, qui dansera bientôt sur mon cœur en décombre. La jeune fille ou le tigre dans les franges sombres, qui sera chambellan. Il n'a fallu qu'un mot pour berner le galant. Grâce à cet indiscret qu'un soupir émoustille, je sais où est le tigre, je sais où est la fille. Il suffira demain que d'un simple coup d'œil, je montrerai mon amant de mon deuil. Mon cœur veut qu'il soit libre, infidèle et vivant. Mais mon âme jalouse veut voir couler son sang. Il faut une réponse.
Radio Libertaire 89.4.
Que de l'amnésie profonde, cet amant-là s'est noyé.
Merci au 01 43 71 89 40 sur Radio Libertaire. Radio Libertaire, c'est la radio de la Fédération Anarchiste. Et Orbi comme Urbi, sans sponsor ni publicité. Alors pour vos cartes de soutien, vos cartes d'auditeurs, une seule adresse. Bah, faut fréquenter la librairie du Monde Libertaire, 145 rue Bamelot, dans le 11e arrondissement. C'est ouvert du mardi au samedi à partir de 14h. Et c'est le métro République, sûrement. On est bien sûr Onde de Choc, le dernier comptoir où l'on cause. L'émission qui peut faire et défaire les carrières à loisir, y compris celle de Franck Ballandier.
Bonjour.
Bonjour, pour son Apollinaire en prison, aux éditions du Castor Astral.
C'est cela même.
C'est ça. Il faut quand même saluer Monique qui nous a gratifié d'un superbe feuillage en cabine. Ça vaut
bonjour,
le coup.
Bonjour, hein. Monique.
Vous n'avez pas perdu votre temps, vous êtes quand même venu pour quelque chose aujourd'hui. Bon, écoutez-moi bien.
Oui.
Avant d'entrer dans ma cellule, il a fallu me mettre nu et que le voix sinistre ulule Guillaume, qu'es-tu devenu ? Le Lazare entrant dans sa tombe, au lieu d'en sortir comme il le fit, adieu, adieu, chantante ronde, ô mes années, ô jeune fille. Alors, rassurez-vous, je ne l'ai pas appris pour l'émission depuis l'âge de 16 ans.
Vous la connaissez.
Par cœur.
Par cœur.
Ouais. Voilà. Magnifique, non ?
Ce sont des poèmes qui ne sont pas très connus en plus, hein. C'est pas ce qu'on connaît, hein. C'est bien sûr le premier abord, mais c'est vrai que la suite de À la santé, écrite par Apollinaire pendant son incarcération à la prison de la santé, peu de gens connaissent.
C'est le thème du livre. C'est le thème du livre.
Ouais,
hein,
c'est ça, ouais.
C'est le rapport qu'a eu Apollinaire avec cette histoire qui a défié la chronique, quand même.
Ah bah, très clairement. Hein, ça a même soulevé un véritable tollé parmi le milieu intellectuel du début du XXe siècle. Tous les plus grands noms de la littérature, des arts, d'une manière générale, ont pris parti. Il y a eu un comité de soutien. Enfin, c'était un truc énorme. Alors, un comité de soutien que, par hasard, enfin, on retrouve tous les grands noms, Aragon, etc. Qui était encore tout jeune, hein, à l'époque, puisque ça se passe en 1911, mais il manque un grand absent quand même, c'est Picasso, qui pourtant était quand même très clairement impliqué dans cette affaire, quoi. Mais on connaît un peu Picasso par ailleurs, c'était quand même pas un garçon très très...
On va voir tout ça, ouais, en détail, avant de commencer à faire ce voyage, je conseille aux gens qui nous écoutent, éditeur Nada, Victor Serge et ses critiques sur Nietzsche. Alors Victor Serge, je ne sais pas si vous le situez un peu. Serge Kibatchich, il est né en Russie, encore en Russie. Il participait à tous les mouvements politiques. Il va même faire partie de la bande à Bono. Il va être le compagnon de Rirette Maître Jean. Et il y a une très belle photo sur où on voit Benjamin Perret, André Breton à Marseille en 40, qui tentent de s'embarquer pour les États-Unis, de trouver un visa. Ça, c'est Victor Serge.
Belle brochette.
Alors, Victor Serge, c'est toujours très ambigu. Au niveau de la vie, au niveau de la pensée, et son Nietzsche qui vient d'être publié là, c'est pareil. On est en plein dans le sujet, ouais, rassurez-vous. Ouais, hein. C'est écrit en 1917.
Oui,
et en 1917, Nietzsche est mort depuis 17 ans. Et on n'a pas encore tous les documents, on n'a pas encore tout ça. Et donc il y va vraiment à tâtons.
D'accord, hein, très bien.
Donc c'est la première des choses. Pourquoi je dis j'insiste sur 1917? On va s'écouter une chanson d'abord, et puis on va voir à quel point, enfin, quand Apollinaire, c'est pas l'autre siècle. Attention.
Thank you. sabots coule la Seine. Et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent? La joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont.